Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de podcast de Rīgas cirks. Je suis Māra Pāvula, directrice de Rīgas cirks. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer une conversation passionnante avec Vanessa Sylvie, responsable du cirque, des arts de la rue et de la marionnette à l'Institut français à Paris. Vanessa joue un rôle clé dans la promotion et le soutien des arts vivants, notamment du cirque contemporain à l'international. Nous allons explorer ensemble le développement du cirque contemporain en France, les courants esthétiques qui ont émergé au fil des décennies et le rôle des politiques culturelles qui ont permis cet essor. Nous chercherons aussi à comprendre quelles leçons nous pouvons en tirer pour développer les cirques dans d'autres pays. Comme ici en Lettonie. Vanessa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de votre rôle à l'Institut français et de ce qui vous motive dans votre travail pour soutenir le cirque contemporain?
Bonjour, merci de m'accueillir. Donc l'Institut français, c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture pour l'exportation de la scène contemporaine française à l'international. Alors scène française au sens très large, on ne parle pas ici que de spectacle vivant bien sûr, mais l'Institut français couvre toutes les disciplines, le cinéma, le débat d'idées, la langue française. Et moi, je travaille au sein du pôle du spectacle vivant avec mes collègues en charge de la danse, des musiques actuelles, des musiques classiques et contemporaines, du théâtre. Et précisément, moi, je suis en charge du cirque, des arts de la rue et de la marionnette.
Commençons par les origines et l'histoire. La France a une longue tradition de cirque, comme en Lettonie, mais aussi une capacité unique à réinventer. Comment les cirques modernes ou le nouveau cirque a-t-il émergé en France?
On peut peut-être parler de la coupure nette des années 60. Où beaucoup d'artistes décident de faire du cirque, ne sont pas issus de familles de cirque et ils inventent de nouvelles formes d'expression. Le Cirque Paradis, le Palais des Merveilles, tous ces artistes ne sont pas issus de familles de cirque et pourtant, ils font du cirque. En même temps, les années 60 et notamment l'année 68 est un peu considérée comme l'année de la coupure, où politiquement, sociétalement, il y a énormément de changements. Et dans ce cadre-là, le théâtre est un peu considéré comme bourgeois et l'expression du corps est vraiment mise en avant. Également, au niveau de la danse, il y a énormément de transformations. Et même plus tard, d'ailleurs, dans les années 80, 90, où il y avait des formes vraiment inédite, où les gens pouvaient dire « bon, ça, c'est pas de la danse, parce qu'on attendait du ballet et tout le décorum qui va avec ». Et effectivement, dans les années 60, tout le décorum du cirque aussi s'effondre. Et il y a, alors bien sûr, les cirques traditionnels ne disparaissent pas pour autant, ils sont toujours là, les grandes familles de cirque, Amar, Pinder, Zavata. Et à côté de ça, comme je le disais, des artistes qui décident de faire du cirque. Et il n'y a plus forcément les rideaux de velours rouge et les numéros qui se succèdent. Et on va de plus en plus vers une écriture et une histoire à l'intérieur du chapiteau. Il n'y a plus du tout de numéros qui se succèdent comme ça. Et les artistes vraiment essaient de travailler à une dramaturgie. Et des artistes aussi d'ailleurs de théâtre comme Ariane Nouchkine arrive au cirque. Elle met en scène les clowns à Medrano, au théâtre d'Aubervilliers. Voilà, tout ça vraiment fourmille d'idées et de passions.
On parle souvent de la France comme un berceau de nouveaux cirques, mais des années 70, il y avait du changement un peu partout en Europe et un peu partout en monde, et il y avait aussi une grande tradition de cirque dans les autres pays, notamment aussi à l'Est. Pourquoi vous pensez que c'est en France où tout ce mouvement artistique a vraiment mené exactement le cirque à changer, à développer, parce que en même période, par exemple dans le bloc de l'Est, les cirques traditionnels à l'Est, ils fleuraient sans vraiment vivre des grands changements.
Alors tout à fait, à l'Est, mais évidemment, il y a les grandes écoles jusqu'à la chute du bloc soviétique, tout le courant des grandes écoles russes. Et là, on est vraiment sur des formes où la performance physique, la prouesse est mise en avant. Elle fait partie d'ailleurs du clou. Le clou du spectacle, si j'ose dire, c'est la prouesse physique qui est mise en valeur, mise en avant. En France, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a ce changement dans les années 60 avec mai 68 aussi, qui marque les esprits et où on dit stop à plein de choses. La jeunesse a vraiment envie de découvrir d'autres univers. Le théâtre est considéré un petit peu comme quelque chose de bourgeois. Et l'accent est mis aussi sur la performance physique, le théâtre physique qu'on connaît aussi. Et puis, plein de choses sont revisitées. Ariane Mnouchkine, qui joue Wesker's Kitchen au théâtre Medrano, qui reprend les clowns dans de grands théâtres à la Commune à Aubervilliers, donc des théâtres qui sont au départ, qui accueillent des textes plus classiques. Voilà, mai 68 ouvre un petit peu la voie à toutes ces utopies. Et pour l'historien Pascal Horry, il va définir mai 68 en trois points. Donc la politisation, tout est politique, la politique est partout. Ce que je disais, les gens cherchent d'autres manières de pouvoir s'exprimer, d'autres formes. Et l'utopie, tout est tout, tout est un tout. Voilà, donc dans ce cadre-là, effectivement, il y a un petit peu une explosion dans la création. Et le cirque, en France, est un petit peu un capteur de toutes ces nouvelles attentions. Et comme je le disais également, le cirque sort des familles. C'est-à-dire que le cirque traditionnel, où les numéros se transmettent dans les familles, là, nous avons vraiment affaire à des gens qui viennent au cirque et qui sont un petit peu des self-made men, des self-made women, et qui apprennent sur le tas et en même temps qui plongent dans nouvelle manière de faire. Parce qu'en fait, on pourrait peut-être même dire que c'est une autre discipline qui prend certains codes du cirque, mais finalement, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il y a quelque chose de très important aussi à cette période, c'est la compagnie Arcaos, donc, dont le directeur artistique est Pierrot Bidon, qui vraiment va surprendre le public, les médias. Ça va être un espèce de gros boom dans le monde artistique. Et là, il y a vraiment une explosion des codes. Il n'y a plus du tout de chapiteau, ou alors c'est vraiment un chapiteau complètement transformé. Là, le public est installé en bifrontal. On voit des machines, des hommes pris dans des armures métalliques, des clowns enfermés dans des télévisions. Et on voit là que Pierrot Bidon reprend un petit peu et va jouer avec tous les nouveaux agrès de la société. La télévision, les médias, le sport. Sur scène, on voit des tronçonneuses, des voitures qui décollent de la scène. Et ça, c'est avant que le ministère de la Culture prenne le cirque sous sa coupe. Parce qu'il y a aussi ce point important. Jusqu'en 1979, le cirque est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, qui l'aide pour la diffusion dans ses tournées et pour son installation, dans sa circulation nomade. Et à partir de 1979, c'est le ministère de la Culture qui va s'occuper du cirque, qui va prendre le cirque sous sa coupe et apporter des fonds importants à cette discipline. Ce qui est très important aussi, c'est donc les années François Mitterrand. Jacques Lang, à ce moment-là, est ministre de la Culture. Au début, il reste ministre pendant 10 ans et il va vraiment impulser fortement l'émergence du cirque en France. Et par exemple aussi, on voit que le cirque est un petit peu adoubé par le milieu de la culture. En 1971, Jean Villard, qui est l'un des plus importants dramaturges de son temps et directeur du Festival d'Avignon, va dire « Voilà, ce soir, nous accueillons le cirque Bonjour. » C'est un événement très important. Le cirque est au Festival d'Avignon. Alors bien évidemment, après, il y aura Joanne Le Guilherme, il y aura Fia Ménard, il y aura, comme l'année dernière, Barreau d'Evelle, avec qui sommes. Enfin, maintenant, le cirque est partout.
J'imagine qu'avant, le cirque était passé dans des familles, par des parents aux enfants, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et c'est en France où l'éducation du cirque a commencé.
Il y a plein d'étapes à la structuration d'une discipline. Pour moi, une étape la plus importante, c'est vraiment la formation. Quand il n'y a pas d'école, une discipline ne peut pas sereinement se développer. Alors, Jack Lang, il commence par faire tout un tas de choses. Alors, on sait, c'est le créateur de la fête de la musique, mais à ce moment-là, le budget de la culture est multiplié par deux. Il donne énormément d'argent aux régions. D'ailleurs, en France, les régions ont aussi un pouvoir important hein, sur le développement culturel territorial. Il fait tout un tas de choses et des écoles sont créées. Alors avant ça, hein, que la culture prenne le cirque, les premières écoles sont créées dans les années 70. En 1974, l'Académie Fratellini, qui est créée également l'école Alexis Grus, qui crée une école avec la dramaturge Sylvia Montfort. Et en 1985, le Centre national des arts du cirque est créé. Et à ce moment-là, dans cette école, on fait venir d'autres disciplines pour qu'il y ait un frottement un petit peu dans la création, donc des metteurs en scène, des chorégraphes, etc. Et Bernard Turin appelle Joseph Nadj pour mettre en scène la 7e promotion du CNAC. Alors ça, j'en parle parce que c'est un petit peu un événement qui fait date. Alors cet événement, il fait date parce que c'est un peu un sursaut. Donc quand quelqu'un vient mettre en scène une promotion, il est obligé de composer un petit peu avec toutes les disciplines, tous les agrès, tous les savoir-faire des étudiants. Et ce que fait Joseph Nadj avec le Cri du caméléon est magistral. Il y a une dramaturgie au plateau. On a là 10 étudiants qui composent avec tout l'imaginaire de Nadj. Ces objets qui s'ouvrent un petit peu curieux, ces trappes qui sortent de nulle part. Et tous les agrès sont représentés et mis en scène. Et c'est là que le spectacle est présenté à la Villette. Et un journaliste, en rédigeant son article, parle de nouveau cirque. Une autre chose très importante aussi pour la structuration de la discipline. Donc, je disais que voilà, le ministère Jack Lang donne aux régions une certaine autonomie pour décider des appareils culturels qu'ils vont implanter et de vraiment de leur politique culturelle. Mais très important également, c'est l'année des arts du cirque. Donc après Jack Lang, il y a deux ministres importantes, Catherine Tasca et Catherine Trottmann, qui lancent en 2001 et 2002 l'année des arts du cirque. Et là, c'est vraiment donner des moyens au théâtre, au festival, des moyens importants pour programmer du cirque et faire découvrir au public cette discipline en totale émergence. Dans ces années-là, il y a 12 pôles nationaux qui sont créés, donc les PNC, les pôles nationaux cirque. Aujourd'hui, il y en a 14. Et ce sont des équipements qui ont vocation à diffuser du cirque, mais aussi à apporter de l'argent pour les résidences des compagnies et également pour la production des œuvres. Donc, il y a vraiment des budgets spécifiques dédiés au cirque pour son grand développement. Également, un programme important, le programme Jeunes Talents Cirque, donc qui émerge dans les années 2000-2004, si mes souvenirs sont bons, qui maintenant s'appelle Circus Next, donc qui est un programme européen pour le cirque. Il est composé d'un jury européen. Ce jury, d'ailleurs, se réunira très prochainement à l'Institut français cette année. Et tous ses membres vont analyser les dossiers que les artistes ont déposés pour sélectionner les meilleurs. C'est un moment très important, la vitrine Circus Next, donc, qui se déroule à Paris, au Théâtre de la Cité Internationale, où les artistes sélectionnés vont présenter un extrait de 20 minutes de leur création à venir. Et là, c'est le moment pour énormément de programmateurs de se positionner, de voir voilà qui ils vont accueillir en résidence, sur quel spectacle ils vont apporter une coproduction. Alors un exemple, si je dois citer un exemple, c'est lorsque le groupe Ivan Mozhukin a présenté le spectacle de nos jours, enfin l'extrait du spectacle de 20 minutes. Et ça a été, tout à l'heure, on parlait un petit peu des chocs esthétiques qu'on a eus. Et là, ça en était un pour énormément de monde. Et voilà, le spectacle, après, a connu la gloire qu'on sait. Il a tourné, la première année, plus de 150 fois. Enfin, c'était une belle histoire. Et il y en a plein d'autres, plein d'autres.
On va encore retourner sur ces questions artistiques, esthétiques, mais à l'étranger, ici en Lettonie, dans le Pays Baltes, mais je pense que partout en Europe, la France a vu un peu comme le mec du cirque. On a l'impression qu'en France, on a énormément de compagnies, on a des pôles cirque, on a des centres de résidence, on a des formations supérieures en art du cirque, on a énormément de festivals. Et donc, ça paraît... très, très beau et très simple de l'extérieur, mais est-ce que peut-être vous pouvez parler de quels étaient le défi auquel le cirque contemporain a dû faire face en France et comment ils étaient surmontés?
Alors oui, en France, on a beaucoup, beaucoup de chance, puisque enfin, là, on parle du cirque, mais l'ensemble du champ culturel est extrêmement soutenu depuis les années 80 que j'évoquais tout à l'heure. Il y a énormément de dispositifs pour soutenir la création artistique, que ce soit au niveau du processus de création, la recherche, la résidence et ensuite des appuis importants pour la diffusion. Alors même si aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile, on le sait, il y a moins d'argent, les baisses sont importantes dans les budgets, mais aussi, enfin, le challenge, c'est le renouvellement des formes. C'est toujours s'interroger. Et ce qui continue aujourd'hui peut-être à interroger les artistes parmi plein d'autres questions, mais c'est, voilà, qu'est-ce que le cirque? C'est quoi le cirque? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus de nouveau cirque? On a parlé aussi des arts du cirque. Aujourd'hui, c'est le cirque. La fracture s'efface entre le cirque traditionnel et le nouveau cirque. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui réfléchissent à la discipline et qui retravaille le principe du numéro qui avait vraiment disparu pendant des années. On peut citer par exemple Maroussia Diaz-Verbeck qui, avec son spectacle Note on the Circus, retravaille toute la logique du numéro et en même temps, avec quelque chose de toujours très contemporain et très pertinent, où elle arrive avec son système de loop à créer une histoire. Alors qu'évidemment, avant, les artistes dans le cirque traditionnel, parfois, ils se rencontraient le soir de la première de leur numéro. Il n'y avait pas vraiment d'écriture. Mais voilà, c'est remettre aussi peut-être, pour certains bien sûr, hein, le numéro, le principe du numéro au centre et de le transformer. Donc en fait, je dirais que peut-être le challenge, c'est toujours se réinventer dans les formes et faire avancer l'histoire.
Le cirque contemporain français est aussi riche et diversifié avec des courants esthétiques et des styles variés qui ont émergé au fil des années. Pourriez-vous nous parler des courants esthétiques dominants aujourd'hui dans le cirque contemporain en France et de ceux qui se sont développés ces dernières décennies? Est-ce qu'il y a des courants esthétiques qui définissent aujourd'hui le cirque contemporain en France? Est-ce qu'on parle toujours d'un cirque contemporain français? Est-ce qu'il y a un style particulier?
Alors peut-être que justement, ça serait l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant esthétique particulier, il y a des courants esthétiques dans le cirque, et justement, c'est ce qui fait sa richesse et du coup sa diversité. On ne peut pas, et d'ailleurs je pense qu'on ne veut pas, classifier ou dire que le cirque est dans un courant esthétique particulier. Il y a plein d'ouvrages sur la question, et notamment un très beau DVD qui, à l'époque, avait été édité par Hors les Murs, où justement Jean-Michel Guy et Julien Rosenberg, donc Jean-Michel Guy qui est un grand chercheur, sociologue, historien du cirque, et Julien Rosenberg qui maintenant dirige l'OARA, donc qui est une structure régionale dédiée au spectacle vivant. Donc ces deux-là avaient fait un ouvrage qui donnait un petit peu les tendances dans le domaine du cirque. Alors on parlait de cirque social avec par exemple Guy Alouchery, qui vient plutôt du théâtre et qui a trouvé dans le geste circassien quelque chose de supplémentaire pour exprimer tout ce qu'il tout ce dont il voulait parler. C'est-à-dire, Guy Alouchery est un metteur en scène qui traite un petit peu des sujets sociaux, notamment dans le nord de la France, le chômage, la fermeture des mines de charbon, et il n'avait pas assez de gestes au plateau pour exprimer vraiment ce qu'il voulait dire. Et en fait, la mise en scène des étudiants du CNAC, donc on est après Nadj, hein, lui ouvre des perspectives incroyables pour pouvoir exprimer ce qu'il peut dire au plateau. Donc voilà, je parlais de cirque social, mais il y a aussi des spectacles entiers sur une discipline. Alors, on va citer le plus connu, mais quand Jérôme Thomas met en scène des spectacles d'une heure avec des jongleurs et des jongleuses, c'est une vraie révolution. Et il amène la discipline sur les planches des théâtres et en fait vraiment une discipline à part entière. Donc, dans les arts du cirque, comme on disait à l'époque, voilà, il y a des disciplines, le jonglage, les aériens, les arceaux par exemple, qui faisaient des spectacles uniquement avec du trapèze. On se souvient de ce chapiteau blanc, cette bulle immense dans laquelle le public, dans laquelle nous étions allongés sur des transats, donc beaucoup plus confortable pour regarder le toit d'un chapiteau. Donc voilà, un petit peu, le cirque était, enfin en tout cas dans ces ouvrages de l'époque qui tentent d'expliquer, de donner une définition du cirque, il était un petit peu classé comme ça. On peut toujours le faire. On peut toujours, évidemment, dire voilà, qu'est-ce que l'acrobatie, donc d'un loup pour l'homme à XY, en passant par
En attendant le grand soir.
En attendant le grand soir, exactement. La bande à T-Rex, voilà. Le vélo. Alors là-dessus, on peut peut-être revenir à Vincent Varin, donc qui est champion du monde et vice-champion du monde de BMX. Donc, ce fameux vélo des années 80 sur lequel on est tous montés un jour. Mais voilà, Vincent est champion du monde. Et à un moment, il se met à faire du cirque avec son vélo. Et il amène un peu un sport au rang des arts.
On voit que dans l'émergence de nouveaux cirques, il y avait beaucoup de synergie entre les gens qui venaient du milieu du théâtre ou de la danse, des spectacles qui se créaient, s'inspiraient et qui enrichissaient le cirque contemporain. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des spectacles multidisciplinaires. Quelle est pour vous la relation aujourd'hui entre le cirque et les autres arts de spectacle? Est-ce qu'on parlera dans 20 ans encore de cirque contemporain, de danse contemporaine, de théâtre, ou est-ce que vous voyez ça plutôt synergier dans des arts de scène? Quelle est la relation du cirque avec des autres arts en France?
Alors, est-ce qu'il y a une relation du cirque avec les autres arts parce que la France découpe les disciplines? De part, on en parlait tout à l'heure, mais ces formations, ces aides spécifiques sur une discipline spécifique, ou est-ce qu'on parle de performing arts? Je sais que dans plein de pays, c'est comme ça. Est-ce qu'on doit aller au spectacle? Est-ce qu'on doit aller voir une œuvre parce que c'est du cirque? Parce que c'est du théâtre? Parce que c'est de la danse? Ça, c'est une vraie question. Elle est là pour tout le monde. Je ne sais pas si le public se dit, tiens, ce soir, d'ailleurs, on ne dit pas ce soir, je vais voir du théâtre. On dit ce soir, je vais au théâtre, je vais au cirque, je vais découvrir une œuvre. Et en même temps, c'est quelque chose de très, très surprenant. Je prends l'exemple d'Appris par corps, donc Alexandre Frey et Frédéric Arsenault, avec le spectacle donc Appris par corps, compagnie Un loup pour l'homme. Appris par corps, ça vient de cette expression du sociologue Pierre Bourdieu. On n'apprend pas par cœur, on apprend par corps. Le titre, déjà, est formidable. Donc, ce spectacle qui défraie également la chronique, on a l'impression que ces deux artistes réinventent un peu le principe acrobatique. On est sur un plateau blanc, il n'y a rien. Ils arrivent tous les deux, ils sont en jogging. Et là, une grâce, une élégance, une générosité. Ça aussi, c'est vraiment pour moi un spectacle qui a marqué. Et là, David Bobet voit ces deux jeunes acrobates. Il dit, mais je vais les mettre en scène. Et là, le théâtre arrive un petit peu. Il y a Ronan Chéreau qui écrit un texte qui est dit par une femme de théâtre au plateau. Et l'idée, c'est que David Bobet va jouer avec l'ennemi numéro un des acrobates, la transpiration. Donc, il va y avoir deux rangées de projecteurs qui vont chauffer le plateau à plus de 45 degrés. Et au fil du texte, donc, qui est un fantasme sexuel qu'elle va raconter. Donc là, vraiment, en plus, le texte, la dramaturgie colle à la mise en scène et à ce qui va se passer au plateau, puisque la transpiration, petit à petit, les empêche d'accomplir leur travail acrobatique propre, et ça va glisser, ça va tomber, ça va riper. Et ils vont s'épuiser petit à petit. Donc, c'est aussi quelque chose de ce spectacle est très prenant pour le public.
Oui, je posais cette question aussi parce que je pense que vous avez mentionné aussi dans votre présentation, mais dans mon travail en programmant de spectacles, ça m'est arrivé pas qu'une fois que des gens me disent « Ah, c'était génial, mais c'est pas du cirque, ça, c'est de l'art. » Ou c'est pas du cirque, c'était plutôt danse contemporaine, mélange avec du théâtre, mais plus physique. Et à chaque fois, je me dis, bah non, mais justement, c'est le cirque. Et donc, souvent, on a des débats aussi avec des artistes qui, en entendant ces discours, essaient de se dire, moi, je suis un performing artist. Comme si le fait d'être circassien le rabaissait d'une certaine manière ou. Et justement, est-ce que cette idée de, parce que ce n'est plus un cirque pur, mais un cirque enrichi des différentes influences, n'est plus un cirque? Est-ce qu'on ne doit plus parler du cirque parce qu'il y a de plus en plus de mélanges? Ou justement, d'être fier que ces mélanges arrivent au cirque, mais que le cirque s'affirme comme une forme d'art?
Alors ça, c'est vraiment une question importante, fondamentale, et en même temps, c'est quelque chose qui est amusant quand un public sort d'une salle en disant « c'est pas du cirque ». Et là, la deuxième partie de la soirée commence, et c'est toujours très animé, avec plein de débats, et voilà, c'est quelque chose de très passionnant. Alors peut-être que quand l'artiste renie un petit peu sa discipline, sa formation, enfin, c'est pas renier, mais c'est vouloir s'en extraire, s'en libérer, mais c'est peut-être parce que le cirque souffre toujours. On ne sait pas. J'ai pas de réponse à ça. Des hypothèses peut-être, mais c'est peut-être parce que le cirque souffre encore d'être un art mineur. Prenons un public avant un spectacle. On demande aux gens de fermer les yeux. On leur dit le mot cirque. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que les gens voient, et peut-être même nous-mêmes faisons l'exercice, mais voient encore le chapiteau, les tentes, les gros rideaux rouges en velours. Et l'artiste, en fait, peut-être ne veut plus de tout ça. Alors peut-être qu'il va dire « oui, je ne fais pas de cirque ». Peut-être que cette façon-là de s'en extraire, c'est de la solution qu'avaient trouvé les artistes d'avant la naissance de ce qu'on appelle le nouveau cirque, c'est-à-dire un petit peu sortir du chapiteau, même si le chapiteau reste un outil nécessaire, important et fondamental pour tout un tas d'artistes. Spontanément, je pense à Joanne Le Guillerme. Acceptera-t-il un jour de jouer hors de son chapiteau? Je n'espère pas, parce que tout ce qu'il a développé traite de ça, de cette circularité, de cette piste de 13,50 m qu'il a gardée. Alors 13,50 m, c'était pour permettre, en fait, c'est deux fois la longueur du fouet qui fait galoper les chevaux, mais c'est aussi, avec ce tour de piste, on peut obtenir la force centrifuge qui permet aux acrobates de rester sur le dos du cheval. Donc on garde ça, on garde la force première du chapiteau et de l'outil. Alors peut-être, voilà, je ne sais pas, sortir, aller dans les boîtes noires, c'est, c'est autre chose. Enfin, j'ai pas vraiment de réponse à cette question finalement. Et ce qui est plaisant, c'est qu'il y a voilà aussi tout un tas d'artistes qui vont non pas réinterroger la discipline, mais réinterroger l'agré qu'ils utilisent. Et où il y a un déplacement de la prouesse, il y a un déplacement de la forme. Je pense par exemple à Fragan Galker avec son spectacle Le Vide, où il va là créer un vertige inversé, c'est-à-dire qu'on a peur de la chute. C'est un acrobate donc qui monte sur sa corde et il la coupe en pleine hauteur et il tombe. Et tout ce spectacle, voilà, il va monter, il va tomber. Là, il nous met face à la vie de l'artiste, au travail de l'artiste, mais en même temps, il va réinterroger l'agré. Tout comme Nicolas Fressot, par exemple, avec son spectacle Instable, où, déjà, il va donner une visibilité au machinois. C'est-à-dire, le machinois, c'est un agré quand même qui n'a pas sa place dans les théâtres et dans les spectacles, au moins pendant une heure. Donc, il va mettre en avant cet agré et en même temps complètement jouer avec ce pourquoi il est là. C'est normalement, un mât, ça reste, ça bouge pas. L'artiste monte dessus, il montre son talent, il montre sa grâce. Et là, ça ne va pas arrêter de tomber, en fait. Ça tombe, il remonte. Et la chute est plus importante ou pas, d'ailleurs, que l'ascension. Et là, on va jouer là-dessus, sur la chute, l'ascension. Et ça va complètement perturber le public. Donc, c'est peut-être ça aussi. Parce que le public s'attend à des cotes, finalement. Et on a, heureusement, des artistes irrespectueux qui jouent avec ces codes. Et c'est ça qui est beau dans le cirque, c'est que l'artiste est sans cesse en train de jouer avec les codes de la discipline.
Il y a une question qu'on a posée à chaque personne qui est venue à ce podcast, et la question que je trouve la plus difficile à chaque fois qu'on me le pose aussi. Mais alors, en voyant toute cette diversité esthétique du cirque contemporain, qu'est-ce qui est le cirque pour vous? Comment vous définirez le cirque?
Alors, en effet, c'est une sacrée question. Un exemple me vient spontanément. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si je peux définir le cirque, mais un exemple me vient spontanément. Quand on voit l'acrobatie, par exemple, en Asie, l'opéra de Pékin, les grands acrobates chinois, les grandes troupes chinoises, on dit c'est du cirque. Mais est-ce que c'est du cirque? Puisque l'acrobatie, donc, en Asie est là bien avant l'apparition du mot cirque, puisque le mot cirque en Asie, il arrive donc après les grands cirques du 19e siècle, les grands chapiteaux. Et le mot cirque en chinois, avec l'idéogramme chinois, c'est la réunification de spectacle cheval. Donc on parlait de Lord Ashley tout à l'heure, qui voilà, on peut poser l'invention du cirque traditionnel avec Philippe Ashley. C'est ça, le mot cirque, en Asie. Mais quand on voit une colonne d'acrobates, on va penser, nous, que c'est du cirque, parce qu'on a l'idée qu'il faut ou que ça peut tomber. Ça peut tomber. Et c'est avec ce code-là que vont jouer la plupart des artistes de cirque ensuite. La perspective, la possibilité d'une chute. D'ailleurs, dans le cirque traditionnel, on jouait avec ça. Il y avait des fausses chutes pour faire grandir la tension dans le public. Mais là, pour le public en Asie, c'est exclu. C'est complètement exclu. Ça ne peut pas, ça ne doit pas tomber. Alors que pour nous, ça peut tomber. Et ça, c'est vraiment pour moi fondamental. C'est-à-dire que le regard que l'on porte sur ces figures est complètement, l'attente est complètement différente. Donc, qu'est-ce qui définit le cirque, peut-être? Est-ce que c'est ça, cette possibilité de la chute? Mon Dieu, j'espère pas, mais ce risque sans cesse qui est pris par les acrobates, par les jongleurs. Alors, un jongleur, ben non, on va dire, il prend pas de risque, mais l'attention extrêmement puissante qui est au plateau quand on doit accomplir un acte précis. C'est ça, en fait. C'est ce jeu avec son corps, le jeu avec l'agré, qui est toujours improbable, indomptable, ou domptable à force de travail acharné, des mois, des années sans cesse. L'artiste de cirque travaille comme tout un tas d'autres, mais ce travail-là sur le corps qui est impressionnant, voilà, c'est ça qui est fascinant et peut-être que c'est ça qui fait le cirque.
C'est une très belle réponse. J'aime bien cette idée de risque, cette intrigue. Est-ce qu'on ne vient pas voir justement tiré par ce risque le spectacle? J'espère pas.
On vient peut-être voir surtout quelqu'un qui fait ce qu'on ne pourra jamais faire.
Oui, c'est mieux. On approche la fin de cet épisode, mais il y a une dernière question que je voulais évoquer, des choses dont on peut parler aujourd'hui dans le cirque. Et est-ce qu'on utilise aujourd'hui aussi le cirque comme quelque chose qui transmet les idées dans la société? Est-ce que c'est quelque chose que le cirque fait, que le cirque a envie de faire? Quels sont les sujets qui sont évoqués aujourd'hui dans le cirque? Quel rôle, quelle position il prend dans la société?
Alors, les artistes de cirque, comme tous les artistes, est-ce que ce n'est pas d'ailleurs la fonction première de l'art, de faire tanguer les idées et d'apporter sa pierre à l'édifice pour construire une société meilleure ou pour tout simplement dénoncer, je dis simplement, mais pas simplement du tout, dénoncer un petit peu ce qui ne va pas dans la société? Alors oui, je pense que ça doit être un des rôles de l'artiste et qu'ils le font tous à leur manière brillamment. Moi, ce qui me plaît quand je vais au spectacle, c'est de tanguer. Alors, pas forcément de tanguer sur des idées sociétales ou politiques. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de dire que tout est politique, finalement. Tout est politique. Une prise de position. Je pense, par exemple, au spectacle de Sandrine Jungler, Dick Love. Elle nous bouscule, c'est-à-dire qu'elle va nous faire réfléchir sur le genre. Qu'est-ce que c'est que le genre? Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'apparence d'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'apparence d'un homme? Enfin, elle bouscule un petit peu. Et ce spectacle est magique, très poétique, mais il est aussi politique. Les clowns. Est-ce qu'un clown se doit d'être drôle? Alors, en France, on n'a pas forcément des clowns drôles. Hein. Ils sont plutôt... complètement irrévérencieux. Ils sont, justement, ils utilisent un petit peu ce côté rigolo pour traiter des sujets vraiment très graves. Alors ça, c'est vraiment l'histoire du clown. Est-ce qu'un clown a déjà été drôle gratuitement? Non, je pense pas. Voilà, le clown, prenons cet exemple. Le clown, il est là pour nous faire rire, mais quand même sur des sujets toujours profonds. C'est-à-dire nous mettre un petit peu face à nous-mêmes. C'était un petit peu ce jeu-là, hein, du clown blanc et de l'Auguste, l'autorité. Et puis, on s'identifiait à ce clown qui prenait des baffes et qui prenait des coups. Ces clowns-là, ces clowns auxquels je pense, peuvent parfois être d'ailleurs extrêmement tristes. En prenant ce nez rouge qui, normalement, dans l'imaginaire... doit faire rire, mais dans le syndrome de Cassandre, par exemple, Yann Frisch, enfin pour moi en tout cas, est tout sauf un clown drôle.
Pour conclure, Vanessa, pourquoi pensez-vous qu'il est essentiel aujourd'hui de continuer à réinventer les cirques? Et peut-être vous avez quelques mots à souhaiter au cirque ici dans le Pays Balte.
Alors, le cirque, mais tous les artistes. Si j'ai un souhait, c'est que le cirque et tous les artistes puissent continuer à vivre de leur art, qu'ils ne soient pas gênés, pas empêchés, et que la création puisse continuer d'être ce qu'elle est, et plus encore, puisque comme voilà, on l'a dit tout à l'heure, l'artiste est un pilier. De la société.
Merci beaucoup pour cet échange, Vanessa. C'est fut un plaisir de mieux comprendre le modèle français et les nombreuses possibilités qu'il offre pour développer et enrichir le cirque contemporain à travers le monde. Et avec ceci aussi, je remercie à tout le monde qui a participé dans cette saison dédiée au cirque français, au cirque de Riga et tous les invités qu'on a pu recevoir de ce podcast. Merci beaucoup.
Merci. Et merci à Riga Cirque d'accueillir l'Institut français de Paris ici, à Riga, en Lettonie.
Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.